Alors du coup l'idée c'était de suite en fait à une enquête sur, enfin à une présentation hier sur l'enquête qu'on a faite dans la chapelle avec plusieurs médias sur le sujet de l'enquête. Donc finalement il y en a certains qui ont suivi, on n'a pas beaucoup parlé d'enquête, mais à la base l'idée c'était d'explorer ce sujet. Et en fait, les organisateurs du week-end avaient eu l'idée de me proposer d'intervenir sur justement cette enquête particulière comme une forme d'illustration de la pratique de l'enquête dans la presse indépendante et particulièrement de la revue Panthère Première. Alors, c'est pas une enquête qui est propre à Panthère Première, mais en tout cas, elle a été publiée dans le premier numéro. Et je dirais que l'originalité, cette restitution, en fait, elle se situe dans la forme, beaucoup, pas tant peut-être dans l'enquête en tant que telle sur laquelle je vais revenir, mais l'idée, c'était justement de trouver une manière de restituer, en fait, toute cette enquête un peu particulière d'une manière qui soit assez peu journalistique, en tout cas, qui puisse intéresser des gens qui lisent pas forcément des journaux de la critique sociale, des articles universitaires, et donc de trouver un biais, un peu une forme de narrativité, un récit, voilà. Et du coup, cette enquête, ceux qui l'ont lu ou qui aimeraient le lire, en fait, elle se lit un peu comme une sorte de journal d'enquête. C'est-à-dire, elle part, et là, je vais du coup vous raconter ça, elle part d'une situation particulière, d'une question, et ensuite, elle explore d'autres questions, mais à chaque fois avec un système de, voilà, ça rebondit, quoi. Je rencontre des gens qui me disent quelque chose, ça m'interroge sur quelque chose d'autre, donc je vais voir quelqu'un d'autre qui me dit quelque chose, etc. Et donc, il n'y a pas de, je pense, de, c'est une enquête assez ouverte, en fait, qui ne fait que poser des questions qui se superposent, etc. Le sujet de l'enquête, du coup, comme vous avez peut-être vu dans le programme, c'est un sujet un peu particulier dans le sens où on en parle très rarement. Enfin, c'est un sujet qui est assez peu exploré, qui s'inscrit dans le cadre des études des violences conjugales, on pourrait dire, ou de la violence intrafamiliale, mais bon, qui mine de rien sont assez minoritaires. Et en fait, pour tout vous raconter, c'est une enquête qui a commencé avec le numéro 10 de la revue Z. Je ne sais pas si vous avez eu entre les mains ce numéro 10, qui est un numéro sur les féminismes à Marseille. Moi, j'avais fait partie de l'équipe de ce numéro-là, habitant Marseille, mais pour le coup, j'avais très peu participé avec des sujets typiquement marseillais. Et j'avais proposé de faire un article sur l'inceste, qui n'est pas du tout un sujet, pour le coup, très exploré, en tout cas dans les milieux militants. À partir de la lecture d'un livre que j'avais trouvé vraiment foncièrement, révolutionnaire, au bas mot, qui s'appelle « Un inceste ordinaire » et qui explore en fait la dimension collective de l'inceste, justement en la dépathologisant, en arrêtant de la faire, de la considérer comme une maladie, psychiatrique de la part d'un agresseur, réfléchissant au fait que l'inceste, ça peut être un instrument de coercition patriarcale exercé principalement par des hommes sur des femmes plus particulièrement sur des enfants, et ça peut être un instrument de pouvoir. Et donc dans ce livre qui s'appelle « Un inceste ordinaire », en fait, c'est l'histoire d'une anthropologue qui enquête sur un cas d'inceste qui a été perpétué pendant une vingtaine d'années dans un petit village de 200 habitants en Seine-et-Marne, à côté de Paris. Donc ensuite, le cas a été rendu public une fois que la personne, la victime, a été majeure et a pu en fait le dire, mais ça a pris énormément d'années. Et en fait, donc cet inceste s'est produit au vu et au su de tous, y compris institutions scolaires, maternité. Il y a eu 7 enfants qui sont nés de cet inceste. Enfin voilà, et donc tous les services sociaux étaient au courant, et donc cette anthropologue, Léonore Lequen, l'auteur du livre, explore toute la série de justifications qui ont permis en fait à faire tenir ce système-là, et des justifications qui sont, somme toute, on va dire, très ordinaires, somme toute très ordinaires, dans le sens où finalement... connaître cette histoire du pays, cette histoire un peu sordide, finalement ça donne du pouvoir à certaines personnes, à ceux qui le connaissent par rapport aux nouveaux arrivants qui la connaissent pas. Oui, certes, c'est un peu dégueulasse, mais en même temps, finalement, ce mec-là, le père, c'est un bon travailleur, donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire, s'il travaille bien et s'il tient bien ses enfants. L'auteur se livre à toute une série de réflexions sur comment est-il possible qu'un système incestueux, connu de tous, puisse tenir si longtemps. Donc moi, j'avais interviewé cette femme à propos de ce livre. L'entretien était paru dans la revue Z. Et suite à ça, un an plus tard, je suis à Marseille, et il se trouve que, parce que j'ai travaillé dans le milieu médical pendant un temps, il y a quelques années, je suis avec une ancienne collègue qui est infirmière spécialisée en gérontopsie. Donc la gérontopsie, c'est principalement des personnes âgées, psychotiques, mais c'est un champ qui va assez largement à toute forme de dégénérescence neurologique aussi, comme la démence par exemple. Et Alzheimer en fait pas vraiment partie, mais finalement c'est aussi un champ qui, enfin, c'est à touche-touche aussi avec les études de la maladie d'Alzheimer. Et bref, et là je lui raconte donc ce livre comme je suis en train de le faire, et parce que, enfin, certainement un peu mieux parce que la lecture était un peu plus récente. Et cette nana, Gina, me dit « Ah, c'est marrant ce que tu racontes, parce que alors nous, dans nos services de géronto, on a énormément de femmes qui nous disent avoir été victimes d'inceste, de violences intrafamiliales, viol, violences conjugales, voilà, témoins aussi de beaucoup de choses, etc. Et il se trouve qu'en fin de vie, donc clairement à quelques années de la mort, voire à quelques mois de la mort, ces personnes livrent délirent, en fait, c'est vraiment le terme utilisé, en tout cas c'est par cette infirmière, délirent en nous racontant plein de choses sur des secrets de famille qui émergent, etc. Et le truc, c'est qu'on sait pas quoi en faire. Et donc là, je me dis, ah, mais c'est super intéressant, du coup, moi je me dis, c'est vraiment tout un. Je n'aurais jamais imaginé ce sujet, enfin, c'est pas du tout un endroit auquel j'aurais pu penser, je pense, enfin, évidemment, on pense pas à tout, mais je m'étais pas dit qu'effectivement, ces lieux-là, juste avant de mourir, le fait de peut-être délirer pouvait permettre éventuellement de libérer la parole si tel était le cas. Et là, avant même d'en arriver là dans ma réflexion, je me suis dit, bon, peut-être qu'il serait intéressant d'aller voir, voilà, ces services de soins, de trouver une manière de rentrer, de rencontrer davantage de professionnels pour se poser une question très simple qui est, avant même de savoir qu'est-ce qu'ils font de cette parole, etc., c'est est-ce qu'on laisse la possibilité qu'une parole puisse être un acte alors même qu'on est âgé et alors même qu'on est considéré dément, donc c'est-à-dire non crédible en fait sur ses dires, etc. Et là je parle de démence, mais c'est une situation qui peut s'appliquer en fait à énormément de cas, hein, enfin vers la folie, le handicap, enfin voilà, toute personne qui peut être considérée non crédible de ses dires, en tout cas pas légitime de porter une parole vraie. Donc moi je me suis dit, bon, avant même de savoir quoi en penser et ni quoi faire, parce que je pense que c'est une situation compliquée, enfin je me dis, ben, je l'ai bien, c'est pas simple, peut-être que on peut regarder comment aujourd'hui, par rapport aux personnes âgées et aux femmes, on considère, enfin ne serait-ce qu'on considère cette parole. Est-ce que la parole d'une personne démente peut être considérée tout simplement juste? Est-ce que la parole d'une personne âgée peut être considérée entendable? Et donc je m'étais rendue dans ce service de gérontopsie, j'avais rencontré la psychiatre en chef, etc., qui m'avait très gentiment accueillie, etc., et qui avait déjà confirmé en fait ce qu'avait dit l'infirmière, donc ça peut paraître un peu cohérent, mais en tout cas j'avais trouvé ça très intéressant de... Est-ce qu'il faut faire quelque chose ? Non. Très intéressant parce qu'elle m'avait dit, oui, effectivement, il y a énormément de femmes qui délivrent des secrets, donc elle confirmait ce truc-là. C'est normal qu'il y ait plus de femmes que d'hommes déjà qui disent, parce qu'en fait les femmes ont une espérance de vie qui est bien plus forte que les hommes, et puis au-delà de ça, les femmes sont beaucoup plus bavardes que les hommes, donc dans le radotage, évidemment, sachant qu'elle ne crédibilisait pas du tout les paroles de ces femmes-là, mais en tout cas c'est évident qu'elles vont y aller à bloc dans le délire, quoi. Et donc voilà, donc ça, elle expliquait comme ça la proportion plus forte de femmes que d'hommes qui délivraient des secrets liés à des violences dans leur délire, quoi. Évidemment, elle omettait un aspect important qui est que statistiquement, il y a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes qui sont victimes de violences. Ça semblait assez évident aussi, mais bon, en tout cas, c'était pas quelque chose qui était considéré dans cet espace médical-là. Et donc, avant de poursuivre, on va dire, l'enquête dans les services de soins, j'avais commencé un peu à regarder quand même la littérature qui existait, parce que moi je connais pas très bien quand même ce champ des études de la vieillesse, etc., et qui est pas non plus un champ extrêmement exploré, je pense peut-être plus dans certaines disciplines que d'autres, mais en tout cas il n'y a pas non plus tant de choses que ça. Et il y a deux travaux en fait qui m'ont beaucoup intéressée. Le premier, c'est un homme qui s'appelle Baptiste Brossard, qui est sociologue, et en fait qui travaille sur la manière dont on crédibilise ou pas une personne à partir du moment... Enfin, en fait, lui, pour être plus clair, il étudie ce qu'on appelle les consultations mémoire, qui est le moment où, si oui ou non, on va déterminer qu'une personne est en train d'avoir un Alzheimer. Donc en fait, c'est vraiment un moment de diagnostic, et lui, il a vraiment très finement, enfin c'est vraiment assez passionnant, très finement étudié ce moment-là. Et en fait, il met à jour des choses, encore une fois, qu'on pourrait, que moi je trouve finalement assez. On aurait pu presque le savoir avant, mais c'était un peu dramatique de se rendre compte que c'est vraiment comme ça. Alors, c'est une enquête très longue, c'est vraiment une enquête sociologique assez bien faite. Et lui, ce dont il rend compte, c'est que, les critères qui sous-tendent l'évaluation, ou le diagnostic d'une personne potentiellement atteinte d'Alzheimer, sont évidemment des critères extrêmement partiels, fondés sur des valeurs notamment très productivistes, c'est-à-dire qu'on va par exemple évaluer la rapidité d'une personne, sauf que, encore une fois, est-il véritablement intéressant d'évaluer la rapidité d'une personne âgée, dont on sait très bien que plus l'âge passe, plus l'agilité se dégrade. Donc il se rend compte de ça. Ensuite, il se rend compte que, en fait, si une personne a trop de singularité, c'est louche. C'est-à-dire qu'une personne âgée, les attentes sociales projetées sur l'être vieux sont des attentes sociales très déterminées, avec beaucoup de critères, qui disent, à la volée, notamment que être vieux, c'est ne pas faire de vagues, c'est ne pas avoir d'attitude trop sexuée, c'est-à-dire de ne pas être trop exubérant, de ne pas arriver à 80 ans avec du rouge à lèvres partout, dans tous les cas, de se tenir à peu près à carreau dans une forme de passivité sociale, et que, à moins d'être intellectuel, et encore une fois, là, lui aussi, il souligne assez fort la dimension sociale de qui se joue dans ses consultations, on n'est pas crédité, on peut être crédité d'anormalité si, effectivement, on a trop de velléité d'existence, quoi. Alors c'est mieux dit et plus finement explicité, mais dans tous les cas, c'est intéressant parce qu'il montre en fait combien le diagnostic sur Alzheimer, ou en tout cas, et qui va ensuite donner toute une décrédibilisation de la parole. Enfin vraiment, à partir du moment où on est diagnostiqué Alzheimer, on peut commencer on peut dire quelque chose et ne pas être entendu comme tel. Il se joue aussi, alors certainement, il y a plein de cas dans lesquels il n'y a pas de problème, il n'y a pas de faux diagnostic. Il y a aussi des cas où c'est les personnes elles-mêmes qui se rendent au diagnostic, c'est pas forcément sur la demande d'un tiers, qui sentent que clairement il y a quelque chose qui va mal, etc. Donc faut pas être manichéen complètement, mais il y a aussi tout un tas de situations qui sont complètement borderline et où les gens sont identifiés pré-Alzheimer, un peu déconnants, etc. Et ça y est, à partir du moment où le diagnostic médical est posé, on sait que c'est posé pratiquement jusqu'à la fin de la vie, quoi. Là, dans l'article, justement, je donne l'exemple d'une personne qui a été une espèce de miraculée, une personne âgée qui s'était diagnostiquée Alzheimer, qui ne l'était pas, mais je raconte un peu cette histoire-là, de comment ça peut aller très très vite, cette machine-là, et bam, internée dans le service Alzheimer, ça en dit long, mon lapsus, mais non, dans le service Alzheimer, et ensuite, pour en ressortir, c'est très compliqué. Donc on voit que la crédibilité d'une personne âgée, de manière générale, elle est assez faible, encore plus quand elle a des attributs qui ne correspondent pas à des attentes sociales très précises, encore plus quand socialement elle ne correspond pas aux attentes intellectuelles des tests, par exemple, qu'on lui fait passer. Enfin, donc évidemment, une personne qui a une origine sociale plus basse et on va dire un socle de connaissances, par exemple, général plus bas qu'une autre personne peut être plus facilement jugée délirante qu'une autre. Enfin, c'est vraiment, je trouve, des endroits qui en disent vraiment long sur d'autres fonctionnements sociaux. Et puis alors l'autre aspect, l'autre pan de travaux qui m'avait intéressé par rapport à la crédibilité ou non qu'on accorde à une personne âgée, c'est les travaux d'une autre sociologue qui s'appelle Lorraine Horry. Et cette femme, en fait, elle travaille sur la manière dont on pense la sexualité des personnes âgées atteintes d'Alzheimer et surtout dont on pense leur consentement. On est dans des instituts médicaux spécialisés, avec des soignants spécialisés, et se pose la question du consentement sexuel des patients. Et elle se rend compte que face aux questionnements éthiques qui peuvent se poser, alors par rapport à plein de situations, alors ça peut être des situations de violence, des situations de viol, ça peut être des situations où on a retrouvé deux femmes dans le même lit, il peut se passer, c'est des institutions de vie aussi, c'est pas que des mouroirs pour personnes malades, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. Et en fait, ce qu'elle raconte, c'est que face à l'absence absolue de réflexion par rapport à l'éthique du soin et à la sexualité dans ces espaces-là où le consentement est biaisé, donc c'est une question très très compliquée, à partir du quand on est consentant ou non, effectivement on n'a pas tout le temps toute sa tête, c'est pas simple, mais elle se rend compte que justement face au manque de réponse, eh ben, les gens font ce qu'ils font tout le temps, enfin, est-ce que nous-mêmes on fait tout le temps, c'est que quand on ne sait pas, eh ben, on se calque en fait sur des stéréotypes en général, et les stéréotypes sont très puissants, et les gens, les soignants se calquent sur des stéréotypes de genre, allant à dire, partition très claire, les hommes sont davantage capables de choses, donc capables d'intentions, même sous Alzheimer, là on parle que de patients Alzheimer, donc davantage de potentiels agresseurs, et les femmes, en revanche, sont davantage passives, donc davantage victimes, mais, et ça c'est ce qui nous intéresse là, davantage affabulatrices. Qui est un grand poncif, encore une fois, attribué aux femmes, voilà, cette capacité à parler trop, à parler mal, à inventer, voilà. Et en tout cas, c'est quelque chose dont elles... Alors, c'est, encore une fois, c'est des enquêtes, c'est pas sur un seul institut de soins, hein, c'est des enquêtes sociologiques, c'est des thèses, en fait, hein, donc il y a eu pas mal d'enquêtes de terrain. Et elle se rend compte que voilà, dans énormément de cas, en fait, donc soit on obéit à un script, on va dire, un peu classique, qui est souvent assez vrai, hein, malheureusement, l'homme est l'agresseur, la femme est l'agressée, mais il y a énormément de cas où la femme se plaint d'une agression et où on la regarde en disant non mais elle délire, en fait. Enfin, elle délire. Et c'est intéressant parce que bon, au moment de l'enquête, à Marseille, s'est passé vraiment un cas similaire dans un EHPAD, un cas de viol qui a été complètement étouffé au motif que c'était un délire, alors qu'il y avait des témoins, enfin bref, enfin, c'est vraiment intéressant de voir combien ces paradigmes-là sont puissants, quoi. Enfin, et d'autant plus dans des espaces clos, fermés, où voilà, les personnes âgées ont très peu de moyens de recours, parce qu'évidemment, quand on est malade et délirant, on a beaucoup de et qu'on ne se fait pas entendre, on ne peut pas se plaindre. Enfin voilà, enfin, on n'a pas de réceptacle, en fait. Donc bon, après la rencontre avec ces deux sociologues-là, j'en étais arrivée à la conclusion suivante que je vais vous lire, qui est un des points, en fait, l'article qui se décompose en fragments. Donc mon fragment 11 de la première partie, c'était une fois qu'un comportement a été jugé non crédible, selon des critères pas forcément crédibles ou pas entièrement crédibles, et que la personne en question est âgée, donc supposée ou rendue passive, qu'advient-il si elle a quelque chose à dire d'un tant soit peu déroutant au sujet, par exemple, de violences commises en famille ? Donc parce que là, jusqu'à présent, on n'en était même pas à l'énonciation de la violence, on était juste au fait de qu'est-ce qui se passe quand on a quelque chose à dire et qu'on est âgé. Bon, on voit que dans diverses situations, a priori, on est déjà assez décrédibilisé, on est assez peu entendu. Et donc là, je propose une première réponse qui correspond donc à la question qu'est-ce qui se passe quand une personne âgée, etc., a des choses à dire sur les violences. Donc réponse 1, là je me trouve à Paris, à l'hôpital Broca, qui est un hôpital très intéressant par rapport aux études de la vieillesse, parce que c'est vraiment l'hôpital de gérontologie le plus important de France. C'est un hôpital universitaire, enfin je ne sais pas si... Non, enfin, parce que je sais qu'il y a des soignants potentiellement par là, donc il y a peut-être des gens qui ont aussi d'autres informations, mais en tout cas moi, de ce que j'ai reçu et compris, c'est un des hôpitaux les plus compétents en France, notamment en recherche, avec beaucoup d'unités de recherche sur Alzheimer. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que quand ils émettent des rapports, des avis, c'est entendu et repris ensuite par beaucoup d'autres hôpitaux. Enfin, donc, d'où l'intérêt d'être allé là-dedans. Et là, je rencontre la psychiatre en chef de tous les services de l'hôpital Broca, du service, attendez, je vais exagérer un petit peu, la psychiatre qui dirige le pôle gériatrie des hôpitaux universitaires de Paris. Donc, on est quand même dans un énorme service, etc. Et là, quand je lui pose la question en lui disant « Oui, voilà, est-ce que vous avez des révélations sur des violences, etc. » de personnes qui ont des troubles cognitifs et des troubles de la parole, du coup, parce que l'un entraîne l'autre, qu'est-ce qui se passe ? Et là, elle me répond, donc je parle à la troisième personne, elle affirme que les secrets de famille ne sortent que si l'on est en bonne santé, car les troubles cognitifs empêchent de dire. Ils biaisent la mémoire, le langage, le jugement. Elle dit que la désinhibition qui peut caractériser le comportement d'une démente ou d'un dément ne peut pas entraîner de révélations sensées. Elle dit que personne n'a jamais prouvé que les délires ont un lien avec la réalité. Elle dit que les gens sont alors complètement à côté de leur histoire, et pour preuve, il y a même de jeunes psychoniques qui se prennent pour Jésus-Christ. Les secrets s'enterrent avec la maladie, c'est comme ça. Elle dit, elle ne doute pas. Et en fait, c'était extrêmement intéressant, enfin, c'était extrêmement dur, en fait, comme entretien, mais j'avais vraiment en face de moi quelqu'un qui était, je pense, très révélatrice, finalement, des institutions, en tout cas, de ces cadres de santé-ci. Parce qu'il y en a plein d'autres, hein. Et d'ailleurs dans l'enquête je parle après d'autres personnes qui ont des positions plus nuancées, etc. En tout cas là on parle des gens qui ont du pouvoir et qui regardent en fait, en tout cas une intervieweuse droit dans les yeux en disant les personnes délirantes n'ont absolument rien de vrai à dire, les personnes délirantes n'ont rien de vrai à dire qui s'inscrit dans leur histoire, tout est délire et les délires partent de tout et n'importe quoi. Donc ça c'est quand même une cadre en psychiatrie qui dirige tout le service psychiatrie des hôpitaux de Paris. Donc il faut dire qu'après voilà, les soignants obéissent quand même un peu à des cadres qui sont posés par leurs supérieurs. Donc c'est, ça veut dire que les marges de manœuvre sont pas extrêmement simples. Donc réponse 1, ben en fait ta question elle a aucun intérêt parce qu'en fait ça n'existe pas. Réponse 2, et ben en fait c'est Gina qui me l'a apporté en fait en complément de ce qu'elle m'avait raconté dans la voiture quand on avait échangé tout au début de l'enquête, hein, ce que je vous ai raconté comme anecdote qui a lancé l'enquête. Et en fait, elle m'a dit, bon, voilà, elle m'a fait cette confidence, donc dans mon service, il y a beaucoup de femmes qui ont des secrets de famille, etc. Et là, elle était un peu gênée, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment une déontologie intéressante, c'est juste qu'elle n'est pas toute seule à travailler et qu'elle ne peut pas prendre de décision, elle est infirmière. Elle m'a dit, mais voilà, mais pour ne pas compliquer les familles, en fait, on fait comme si de rien n'était, quoi. Et en fait, bon, ça, finalement, ça va être l'attitude la plus généralement adoptée par les services de soins. Et c'est pas simple, enfin, c'est pas à juger non plus à l'emporte-pièce, dans le sens où je pense que quand on travaille dans un service de soins et qu'on fait face à ces questions-là, c'est encore une fois très compliqué. Autre pan, donc maintenant ça va, enfin, s'il y a des questions, je sais pas, si je suis pas très claire, vous me dites, je m'attarde, rectifie tout ça. Du coup, pour continuer, donc là, il se trouve que ben, j'ai eu la chance d'avoir des portes assez grandes ouvertes à l'hôpital Broca, et par l'intermédiaire d'un chercheur, en fait, qui était assez intéressé par ce sujet. Moi, je suis pas chercheuse universitaire, tout ça, donc c'est assez rare. En fait, c'est un peu compliqué de rentrer dans des hôpitaux pour faire des enquêtes, mais là, du coup, c'est chouette. Et donc, du coup, je commence à m'entretenir un peu à droite à gauche dans les services de l'hôpital Broca avec des soignants, en fait. Et ce qui m'intéressait, c'était de parler à des soignants qui avaient des contacts différents aussi avec les patients. Et donc, je leur demande déjà aussi pour confirmer ça, parce que moi, j'avais entendu parler de ça à Marseille. Bon, la psychiatre, dont j'étais pas très, très d'accord avec elle à Paris, avait l'air de dire que oui, c'était des choses qui arrivaient, même si on s'en foutait. Enfin, en tout cas, il y avait des révélations. Et donc là, je commence à demander aux soignants si oui, c'est bel et bien vrai, en fait, est-ce qu'ils entendent tout ça. Et là, c'est impressionnant. Vraiment, les gens racontent que oui, ces révélations-là, elles arrivent très souvent. En fait, elle les prend souvent de court et qu'ils ne savent vraiment pas quoi en faire, en fait. Enfin, et là, je parle de, voilà, être soignante, infirmière, cadre infirmier, cadre infirmière. Donc, moi, je pense à peu près toute la hiérarchie, en fait, fait face à ces questions-là. Et qu'en fait, les gens ne savent pas quoi en faire. Et là, on m'invoque le secret médical. Parce que moi, je leur avais posé la question en leur disant, mais est-ce qu'il y a moyen de... Enfin, est-ce que vous pensez, encore une fois des questions ouvertes, hein, parce que j'ai pas de réponse foncièrement, mais est-ce que vous pensez que quand une personne dit qu'elle a été victime d'inceste ou qu'il y a eu violence conjugale, etc., il n'est pas intéressant d'en référer à la famille, en fait, parce que ben, ça, c'est des choses justement qui concernent la famille dans son ensemble, dont on peut supposer qu'il y a eu transmission. Enfin, en tout cas, s'il n'y a pas eu de travail à un moment donné, potentiellement c'est violent, et ça, je pense que tout le monde s'accorde à le dire quand même aujourd'hui, s'il n'y a pas de travail sur des violences fortes dans les familles. Enfin, les névroses et enfin, les traumatismes se répètent par d'autres endroits, quoi. Enfin, l'inconscient a quand même une forte place dans la répétition. Et s'il n'y a pas à un moment donné, un moment où justement c'est dit travailler, etc. Donc moi, je partais un petit peu de ce principe en me demandant si voilà, ça pouvait pas, en tout cas, être je sais pas, pris en compte, pris en charge, etc. Et là, on m'a très rapidement allégué que le secret médical, en fait, faisait que non, en fait, quand une personne, elle livrait une histoire affreuse, en fait, non, ça faisait partie du secret médical et on n'avait pas à le révéler. Donc après, je suis allée voir le secret médical et je me suis dit, bon, ok, mais c'est bizarre parce que j'avais l'impression que le secret médical, on pouvait le rompre quand, il y a des endroits, des moments où, en fait, au contraire, les soignants ont le devoir de rompre le secret médical, etc. Et donc j'avais regardé la définition du secret médical et en fait, le secret médical, c'est notamment dès qu'il y a des possibles inculpations pénales en fait, qui s'en suivent, notamment par rapport à des actes de violence, Et qu'à ce moment-là, quand on estime qu'une personne peut être menaçante encore dans le présent, etc., je dis très mal, il y a une définition qui est très explicite là-dessus, mais on peut rompre le secret médical et en référer au moins à son service, à la direction de l'hôpital, qui en réfère à l'ARS, qui en réfère à la police. Enfin voilà, il y a quand même des enquêtes assez régulières par moment. Voilà, enfin, les hôpitaux ne font pas rien tout le temps. Et là, je me dis, ben bon, alors du coup, ça veut dire que le secret médical n'est que inscrit dans le présent. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où une personne dénonce une violence passée, effectivement, il n'est plus du ressort d'un médecin ou de l'hôpital, en fait, de le prendre en compte. Et puis là, je me dis, ben oui, certainement, mais en même temps, vu qu'on sait que les violences se répètent si elles ne sont pas travaillées, est-ce qu'il n'est pas du devoir, enfin, c'est des questions ouvertes hein, que je pose, hein, mais est-ce qu'il n'est pas du devoir, justement, d'un médecin de se poser la question de savoir si, ok, alors là, on ne peut pas faire grand-chose par rapport à la personne qui va mourir, mais peut-être que si les choses sont encore en cours ou en train de se passer dans les familles, en question, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité collective à avoir et en tout cas réinterroger le secret médical dans ces, voilà, dans ces zones-là. Il se trouve que j'ai aussi rencontré plein de médecins qui me trouvaient que le secret médical c'était voilà, un très bon instrument pour ne rien faire aussi. Enfin, voilà, c'est des catégories qui sont à la fois passionnantes et géniales quand elles protègent le patient et puis qui peuvent être manipulées dans d'autres sens aussi quand je pense qu'un service typiquement est complètement démuni. Et en l'occurrence, encore une fois, c'est beaucoup ce qui se passe. Hein. C'est ce dont je parle, je pense que c'est des questions qui sont peu interrogées, ou alors souvent interrogées à l'aune des stéréotypes. Donc en fait, mais parce qu'il n'y a pas le temps, parce qu'on connaît aussi les ambiances dans les services de travail, l'ambiance dans le service public, etc. Donc en fait, il y a encore moins aujourd'hui de temps pour se questionner sur ces endroits-là ou ces questions-là compliquées. Donc voilà, le secret médical, donc. Je me pose toutes ces questions-là, j'ai des réponses assez variées, je ne vais pas tout vous raconter, tout ça est dans l'article et tout ça. Mais par contre, là je me heurte aussi à une situation qui fait me dire qu'en fait le secret médical, en fait c'est pas vrai qu'on fait quelque chose absolument quand les choses se passent sous le nez des soignants, dans la période actuelle, etc. Parce que pile au moment où je suis à l'hôpital Broca, à ce moment-là, je rencontre des infirmières qui me disent « Ah bah tiens, d'ailleurs, là, la semaine dernière, on vient de faire face à une situation qui fait vachement écho avec ton enquête. Par exemple, là, alors c'était pas une révélation de violence intrafamiliale commise dans le passé, par exemple dans l'enfance du patient, et qui aurait pu traumatiser toute la famille par la suite, mais voilà. Là, en l'occurrence, c'était une situation de violence où il y avait une vieille femme qui était internée, en service Alzheimer, et en fait elle n'a pas arrêté de dire qu'elle avait peur de son mari, en fait elle était internée suite à une chute, mais elle était encore, elle pouvait encore rester chez elle, elle n'a pas arrêté de dire qu'elle flippait, qu'elle avait peur de son mari, qu'elle était violentée, etc. Et les soignantes me disent, et voilà, et après on voyait le mari, venait la voir, il était hyper charmant, tout allait bien, etc. Du coup on savait pas trop, on n'arrivait pas trop à savoir si elle était crédible, finalement on l'a laissé repartir. Et bon, donc, bon, on voit bien que, encore une fois, les situations de violence, notamment faites aux femmes, ont énormément, et bon, ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est énormément de mal à se faire entendre, y compris quand elles se passent sous le nez des gens, et que, encore une fois, et comme tout le temps, est invoquée la question du doute par rapport à la véracité des victimes, alors que toutes les personnes qui ont travaillé par rapport à des violences faites aux femmes, dans ces contextes-là, savent très bien qu'il n'y a jamais, il y a très difficulté. Très difficilement des preuves, que justement la peur fait que, la peur et l'emprise fait qu'on passe son temps à minimiser, à re-raconter autre chose, à cacher les preuves, etc. Jusqu'au jour où justement ça explose et éventuellement la victime porte plainte, mais là il n'y a rien, Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais du traitement du cas de Jacqueline Sauvage, où en fait c'est intéressant, mais quand on observe, quand on lit les médias à ce moment-là, tout a été passé au conditionnel, la raison, pourquoi avait-elle assassiné son mari je sais plus, 30 ans au moins de violence terrible, et tout a été passé au conditionnel les jours, donc c'est vraiment, elle aurait été victime de violence, elle aurait, etc. C'est vraiment extrêmement intéressant, et c'est très révélateur surtout, voilà. Donc ça aussi, le secret médical, on le brise peut-être pas, alors j'ai pas de chiffres, faudrait continuer l'enquête, il faudrait la travailler davantage et tout ça. Mais ce que moi ça m'a montré, c'est que quand on est une femme, démente, Alzheimer, neurodéficience, enfin c'est des termes compliqués, polémiques et tout ça, mais en tout cas qui correspondent à ces catégories-là, soit on n'est pas énormément entendue. En général, elle n'est pas entendue, au nom que le secret médical c'est quelque chose qui appartient au. c'est, enfin, au présent, enfin, on agit que sur des situations présentes, mais finalement, quand il y a aussi une situation présente, bah, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose non plus qui est fait dès lors qu'une personne est considérée peu crédible, ou en tout cas que ça arrange bien tout le monde, que ce soit peu crédible. Dans tout ce panorama-là, j'avais rencontré néanmoins une personne qui est la psychiatre en chef, alors là, pour le coup, à Marseille, du service de psychiatrie, et pas de gérontopsychiatrie, et qui est une femme qui est formée à la thérapie systémique, familiale, etc., donc qui obéit à d'autres schémas de pensée, quoi, enfin, d'autres paradigmes vis-à-vis de la psychiatrie. Et ça a été une rencontre assez chouette, en fait, là-dedans, parce que elle était intimement persuadée qu'un service spécialisé, par exemple, aurait pu exister pour travailler, alors, encore une fois, avec des moyens, avec de la formation, etc., mais pourrait travailler pour soigner, en tout cas, ces cas-là, en fait, et impliquer la famille. Est-ce que vous voulez que je vous lise ce qu'elle... ouais, ça vous va... Enfin, je trouvais qu'elle disait quatre choses intéressantes. Elle disait, un, que le secret médical a bon dos, qu'il s'agit d'un formidable instrument pour ne rien faire, pour se déresponsabiliser de ce qui relève, selon elle, du soin. Deux, que sans exposer les patients aux patientes, en gros, sans aller contre leur volonté, il lui semble contre-productif d'invoquer le secret médical pour faire comme s'ils et elles n'avaient aucune histoire en dehors de l'hôpital, pour faire comme s'ils et elles n'avaient pas de famille, et ce d'autant plus en psychiatrie où la structure familiale a souvent un lien important avec les complications psychiques de la personne. Aussi, pense-t-elle que soigner un individu, c'est aussi soigner sa famille, sinon à quoi on sert ? À calmer les crises, certes, et après. 3. Elle estime que le rôle des soignants ou soignantes n'est pas de transmettre une information sensible qui concerne toute la famille, comme la violence conjugale ou l'inceste, comme on lâcherait une bombe, au risque de n'entraîner que du rejet, de la souffrance en série, voire de tuer. Elle précise qu'il est important de considérer que la structure familiale s'est construite avec ce secret en son sein, qu'elle repose sur ce secret, souvent connu de toutes et tous, mais qui, n'ayant jamais été dit, s'est ainsi perpétué, ainsi que ses effets dans le temps, et que donc, faire éclater le secret peut faire éclater la famille, ou faire éclater une personne de cette famille, en particulier les victimes. Donc, en conséquence, elle pense que le rôle des soignants ou soignantes, c'est d'accompagner la famille pas à pas dans la révélation, de soigner les liens dans la mesure du possible, de sécuriser le terrain de la révélation, en somme. Et 4, elle dit qu'elle a une formation en thérapie systémique et que sa position dans le champ de la psychiatrie et du soin de manière plus générale est très minoritaire. Donc, mais bon, c'était en tout cas une parole intéressante de, enfin, voilà, à prendre, et je pense que certains soignants applique déjà ces méthodes comme ils le peuvent, etc. Sauf qu'on imagine bien que voilà, quand c'est pas institutionnellement organisé, bah, prendre en charge une famille, c'est compliqué, quoi. C'est des heures, c'est coûteux, ça demande du personnel, ça demande du soin, et comme on le voit là, parce que, encore une fois, le but, c'est pas forcément de forcer une personne à révéler, de forcer une famille à entendre si elle a pas envie. Il peut y avoir aussi des ruptures familiales, hein. Les gens peuvent soit obligés de rester en famille, mais en tout cas, il y a aussi des gens qui ont besoin de ces liens-là et de les sécuriser, et bon, en tout cas, c'est pas simple à mettre en place, quoi. Voilà, peut-être pour finir, enfin après j'arrête, et peut-être je serais hyper curieuse de savoir ce que vous pensez de tout ça, mais c'est très intéressant. En fait, il y a une anecdote qui m'a fait vachement rire, c'est que donc quand j'étais à l'hôpital Broca, je me suis fait introduire par un doctorant, en fait, qui s'était fait embaucher par l'hôpital. Et donc lui, c'est quelqu'un qui travaille sur la parole, il est linguiste. Et en fait, il s'était missionné. Alors c'était très drôle parce que c'est vraiment quelqu'un qui a énormément d'autodérision, qui n'a jamais cru à cette mission et qui d'ailleurs a échoué. Et en fait, s'est fait missionner par l'hôpital Broca pour inventer une machine. Une machine qui prédirait, en tout cas, qui serait capable d'interpréter les dires d'une personne atteinte de démence ou d'Alzheimer avec un voyant vert et un voyant rouge. Ça paraît complètement dingue, hein, mais enfin, genre, une machine à commercialiser, évidemment, pour aider les familles, les entourages à mieux savoir quelle est la volonté ou pas d'une personne. Et donc, en fonction de toute une série de critères de linguistes, enfin, moi, je connais pas du tout la linguistique, etc., mais dont notamment l'intonation de la voix, enfin voilà, la manière dont l'intention se positionne, en tout cas dans le langage, si tant est qu'une machine peut déterminer ça. Voilà, donc voyant vert, voyant rouge, je veux un café, voyant rouge, non, c'est pas vrai. Genre, non, mais ça paraissait complètement fou furieux, mais voilà, donc évidemment, cette machine n'a pas abouti. Et du coup, moi, en fait, cette image-là, je m'en servais juste pour dire. En fait, on ne pourra jamais, parce que l'idée qui sous-tend énormément de services de soins aujourd'hui, c'est qu'une personne délirante ne peut pas prononcer une parole avec intention. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intentionnalité dans la parole à partir du moment où il y a du délire. Et moi, je pense que enfin, bah, je vais répondre avec les mots de ce doctorant qui disait, qui expliquait voilà, que ça avait, cette machine avait échoué et qui disait comment définir ce qu'est une intention sans user d'interprétation morale, sans confondre ce qui est dit par la personne et ce que l'on estime de son côté être vrai, entendable, recevable. Et puis, je ne crois pas que l'intention soit un concept si central pour aborder le langage entre êtres humains. Je crois qu'on peut dire des choses, on peut révéler une violence pour aller vers tes préoccupations sans avoir eu l'intention de le faire, mais bien parce qu'une situation où le déroulé d'une interlocution délie la parole à un moment précis. Et du coup, moi, si je pousse le raisonnement, on peut donc être démente, délirante, avoir peu ou pas d'intention en poche et dire très justement les choses. Et je pense qu'on a toutes, dans nos vies, eu des situations où, en fait, on pensait pas dire quelque chose et à ce moment-là, c'est sorti. Enfin, parce qu'on a vu quelque chose, il y a une situation qui a fait que quelque chose s'est produit et voilà... quelque chose qu'on pensait pas pouvoir sortir et a été dit, etc. Et je finis l'article quand même sur une note un peu plus positive en citant quelques soignants et soignantes, psychologues principalement en géronto, qui eux estiment, enfin sont persuadés que les délires sont ancrés dans l'histoire des personnes, enfin qu'on a presque les preuves empiriques en fait, disant voilà, à partir du moment où une personne elle délire quotidiennement sur quelque chose, il y a bien un lien avec son histoire quoi. Alors après, il peut y avoir une transformation de la matière, enfin voilà, on sait très bien que l'inconscient est extrêmement puissant et peut refabriquer en fait plein de choses quoi. Mais bon, a priori, ce n'est pas rien. Voilà. Et ben, du coup, moi, je serais... Enfin, je sais pas si vous voulez qu'on échange un peu, mais je serais curieuse d'avoir vos avis, ou... Enfin, voilà. Ou vos questions, hein. Enfin, peut-être... je suis peut-être un peu vite à des endroits... Ouais.
Attends, mais alors, du coup... peut-être
sans
micro,
c'est pas... Je sais pas, allô ?
Non, ouais. On s'entend tous, non, franchement ?
Ouais, ça va.
Moi, je trouve que l'hypothèse que tu fais, que la fin de vie, et notamment la fin de vie avec un délire ou un trouble d'Alzheimer, pourrait être aussi l'endroit d'un soin, d'une forme de thérapie familiale, c'est extrêmement intéressant. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout considéré dans la forme de l'institution aujourd'hui. Pour en passer pas mal de temps dans un EHPAD auprès de ma grand-mère, j'ai pu observer aussi des situations de famille qui se retrouvaient. Et en fait, les seuls espaces où on peut se retrouver, c'est des espaces de monstration, c'est-à-dire c'est la cantine, le restaurant, dans une configuration très classique, où on se retrouve autour d'une table, un moment très conventionnel. Et il y a vraiment une absence de création d'espace où on peut se parler différemment avec les tiers, qui sont les réceptacles de toute l'histoire justement de la personne âgée, que sont les soignants. Et il y a vraiment, enfin, même en termes de gestion de l'espace, un impensé à ce niveau-là. En tout cas, je trouve que c'est vraiment une hypothèse très, très, très intéressante. C'est bien fini ou pas ?
Bon, il y a un micro pour après.
Ou alors on ouais, non, parle un peu plus fort pour
l'instant. Oui, carrément, mais je vais vous en donner une petite, ça permet de rebondir aussi.
Après moi en fait pour être vraiment honnête j'ai pas fait le tour des EHPAD, enfin voilà, moi je suis vraiment allée voir genre un service, en fait je suis allée voir des services de gérontopsie et pas des EHPAD, vu qu'à la base parce que je voulais pas au tout début, parce qu'en fait en général les patients Alzheimer graves et les déments etc. sont souvent en institution médicalisée. Et pas, enfin, alors il peut évidemment, j'imagine, en avoir dans les EHPAD, etc. Mais quand ça passe en stade, enfin voilà, et vu qu'à la base j'avais entendu parler du truc en gérontopsie, ben c'est un peu là que je suis allée. Donc, principalement à Marseille et à Paris. Mais je pense qu'il y a tout un travail dans les EHPAD à faire aussi. Hein. Moi je connais très mal. Ouais, après, c'est intéressant. Enfin, moi on m'a raconté par exemple des situations où effectivement. Des situations où en fait la maladie fait que des non-dits familiaux éclatent d'un coup. Typiquement, et alors le truc le plus gros, c'était par exemple les doubles vies, enfin les gens qui ont vraiment mené deux vies parallèles, avec par exemple des fois deux familles parallèles, etc. Et là d'un coup, avec une capacité à compartimenter sa vie, toute sa vie, et alors principalement des hommes, enfin hein, c'est pas inintéressant comme, non, mais comme données quand même, et qui avec la maladie n'arrive pas à faire cohabiter le truc, et en fait toutes les familles, enfin surtout toutes les femmes d'un coup et les enfants se retrouvent à l'hôpital, et donc ça fait éclater, voilà. Et d'ailleurs, il y a des psychologues dans les hôpitaux qui travaillent ça, par exemple. je pense que, enfin, il y a à chaque fois des psychologues qui sont censés accompagner justement les familles. Enfin, il y a des structures en fait qui font ça. Là, c'est là où l'enquête, elle était un peu, elle chopait un peu les gens dans un endroit en fait qui n'avait pas trop été réfléchi. Et je comprends parce qu'en fait, c'est pas du tout un endroit finalement si évident. C'était justement, est-ce que vous pouvez avoir une action, enfin quelque chose, enfin avoir une attitude active au-delà de l'hôpital en fait. Et c'est là où les gens disaient, enfin, et ça je le comprends aussi bien, qu'ils disaient, bah on a déjà tellement de travail à l'hôpital que franchement prendre le téléphone et appeler la famille et les faire venir sur un sujet qu'on n'a pas, enfin, qui se pose pas là dans le cadre du soin, en fait, on ne peut pas en fait. Enfin voilà, du coup, c'est pour ça que c'est pas forcément les personnes, merci, qui ces personnes-là qui doivent prendre en charge ça, c'est des services spécialisés, voilà quoi. Enfin, si tant est que ça puisse exister, mais...
Ouais. Au-delà de le faire sortir de l'hôpital, pour les personnes elles-mêmes...
Derrière,
ouais.
Alors attends, tu veux le... Il y a l'autre.
Oui, au-delà de le faire sortir de l'hôpital lui-même, je vous dis aussi pour les personnes qui délivrent ça, je pense que... Est-ce qu'elles t'ont dit si c'était consigné? Si c'était retravaillé en entretien, si, parce que du coup, bah, pour elle, ça veut sûrement dire quelque chose qui va lui falloir creuser et qui est juste déjà entendable, mais qu'après, peut-être que ça pourrait être intéressant de travailler, parce que justement, si ça fait partie d'un délire, peut-être que bah, ça aggrave en fait la situation et que ça peut leur permettre de se stabiliser dans une humeur parce qu'elles ont juste besoin en fait de s'exprimer là-dessus quoi. Donc qu'est-ce qu'ils en font en fait de ça, quoi, pour les personnes elles-mêmes, quoi, leur demander à ce moment-là.
Ouais. Bah moi je, encore une fois, hein, faut pousser l'enquête etc, mais j'ai vraiment cru capter que, alors pour le coup il n'y avait rien qui était fait à cet endroit là.
Pardon, ouais, en fait j'ai rencontré un psychologue à Marseille, donc psychologue rattaché à l'hôpital, qui était assez intéressant, rattaché à la gérontopsie. Et lui qui disait que, bah après, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que lui, il disait, de son point de vue, de professionnel, que c'était compliqué, enfin vraiment méthodologiquement, il savait pas comment faire. Enfin, il y avait un truc, quand une personne lâchait un secret lourd et que c'était répété, ben pour autant, ah oui, c'est ça qu'il disait, c'est qu'il y avait des moments de lucidité, mais qui ne se retrouvaient pas forcément au moment de la consultation. Et que du coup, il y avait très peu de suivi entre le moment où il y avait la révélation, où il y avait en tout cas la révélation répétée du motif, là, et puis le moment où potentiellement ça pouvait être travaillé et où la personne avait switché sur autre chose et c'était très vite, parce qu'il y a vraiment des dégradations cognitives. Donc en fait, ça c'est pas... c'est vrai, le cerveau se dégrade. Donc en fait, c'est pas... C'est vrai aussi que les personnes sont pas tout le temps, ont des éclats de lucidité, mais après il y a énormément de moments où en fait il est plus possible de travailler. Enfin lui c'est ce qu'il disait, c'est qu'il n'arrivait pas à établir un suivi assez clair avec les personnes, etc. Quoi.
En tout cas réinterroger et valider la demande de la personne au moment où elle livre ce truc là.
Après, il y en a peut-être qui le font dans leur quotidien. J'ai l'impression qu'il y a autant de pratiques de soins que d'être soignant ou soignante. Enfin, il y a des pratiques de soins infimes et magnifiques de personnel. Enfin, notamment, je parle des aides-soignantes parce que, enfin, les ASH, enfin, qui sont hyper hyper présentes, hyper pas considérées et qui mine de rien sont des fois les personnes qui connaissent le mieux les patients. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec ces personnes, hein, d'ailleurs.
Déjà, sur la question de la parole légitime, c'était intéressant parce que tu disais une fois que les personnes sont vieilles ou qu'elles sont justement, on leur a posé le diagnostic, elles sont plus légitimes, mais la parole des femmes même, parce que moi j'ai des copines qui ont entamé des procédures pour le viol, et en fait elles se sont retrouvées en hôpital psychiatrique parce qu'on leur fait passer un test pour savoir si... sont pas des mythomanes. Donc c'est-à-dire qu'une personne qui porte plainte dans la procédure juridique, la parole des femmes, et ça doit être aussi la même chose pour les enfants et pour les hommes, hein, mais il semblerait que dans cette procédure, c'est encore récent, hein, j'ai deux camarades qui se sont retrouvés donc dans un hôpital psychiatrique pour vérifier si elles n'étaient pas, donc je ne sais pas pourquoi.
Avec des experts, de toute façon, je pense
donc que ça veut dire que soit on t'a posé un diagnostic et alors là, en effet, t'as une déchéance de légitimité, soit avant même, parce que tu es une femme et parce que tu accuses un homme de violence sexuelle, on va bien te faire comprendre que peut-être que tu délires.
Après, est-ce que c'est une femme? J'ai l'impression que dans les tribunaux, tu as d'expertise. Enfin, c'est
ouais.
Tout le monde, non enfin, y a...
Ça m'a fait penser à ça, ouais. Tu vois. Ah, non, mais c'est... Que, voilà, poser le... c'est pas parce que là, le diagnostic ensuite, c'est vrai que c'est totalement, ouais, c'est totalement ubuesque cette pompe-là de psychiatrie du plus gros hôpital de Paris qui dit ça. Enfin, quand on a autour de soi, et maintenant on a tous, parce qu'avec les générations, on cohabite avec des personnes âgées. Et il me semble que justement, c'est quand elles vont à l'essentiel, et surtout, moi, j'ai remarqué qu'elles ont une mémoire, pas d'il y a 6 mois ou d'il y a un an, elles ont une mémoire d'après sa enfance.
Et en fait, c'est un truc que je note, c'est évident,
ouais, je ne me raconte que des trucs que quand c'est des gosses, alors c'est pas des choses abominables, du coup, mais le fait même qu'on ait cette expérience qui remonte à une mémoire vraiment très ancienne. Le fait même qu'elle est dans le déni, ça prouve qu'elle le sait, mais qu'en effet, elle est arrivée là où elle est pour continuer cette violence institutionnelle de déni qui veut déchoir des personnes âgées, leur statut, j'en sais rien, d'humain, d'être humain, ou bah, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui se profile derrière ça, mais c'est vachement impressionnant. Et donc, moi j'avais juste rencontré Lauriane Salmona parce que ça m'intéressait, j'ai découvert tout son travail.
Excusez-moi, est-ce que
c'est
possible de prendre le micro parce que c'est très difficile.
Ah, ouais, je pense
qu'on est là. J'avais échangé lors d'une rencontre avec Muriel Salmona en France, une spécialiste justement psychothérapeute formée à la question de l'accueil, de l'écoute des personnes ayant subi des traumatismes et des violences sexuelles. Et après tout ce qu'elle avait dit, sa conférence, on avait découvert tout ce qu'elle fait, j'ai dit, mais vu ce que vous dites, on est dans un état de catastrophe sanitaire en fait en France. Et elle m'a dit oui, je confirme, le mot de catastrophe sanitaire est exactement... pertinente. Les médecins, mais même pédiatrie, ne sont pas formés à l'accueil de la parole. On demande même pas. La première question que devrait poser un médecin, c'est alors comment ça va à la maison. Voilà. Et donc du coup, évidemment, ces personnes ici, je pense, encore une fois, ne sont pas fermées. Et la formation. Alors, je ne connais pas. Je connais pas toutes ces thérapies systémiques, etc. Mais la formation aussi, c'est politique, et changer le paradigme de classer les personnes, c'est ahurissant. Encore merci pour cette enquête de sociale, critique sociale, etc. Parce que c'est vrai que c'est un impensé, en fait. C'est juste un impensé, et c'est peut-être... Et justement, cet impensé, c'est pas forcément des gens, en effet, qui disent « Non, on va organiser tout ça, bien sûr », mais c'est le fait même de ne pas en discuter et de ne pas le penser. Et du coup, le plus facile, c'est en effet de dire « Allez, on pose un diagnostic, c'est comme ça ». Et en fait, non, il y a ces personnes. Et c'est même pas une question de lucidité. C'est qu'elles ont la chose à dire. Elles ont la chose à dire.
Du coup, peut-être on fait circuler le. Et peut-être, si vous avez des.
Ouais. Oh, j'aime vraiment pas parler avec ça. Pour être entendue. Tout ce qui a été dit me parle énormément. Je suis infirmière et sensible. Et j'ai bossé aussi en gérontopsie en intérim à Paris au tout début, juste après le diplôme. Et toutes ces questions viennent tout naturellement dans les têtes et les cœurs des soignants. On s'interroge. Et en fait, après quelques années d'expérience, je me dis qu'il y a deux lectures possibles, individuelles et institutionnelles. Il ne faut pas rêver au niveau institutionnel. Ce n'est pas possible dans la situation actuelle. Jamais on arrivera à nous faire entendre par la direction. Pour dire, on va embaucher plus de psychologues, et c'est vraiment important. Et donc, ça, pour moi, tout ce qui est dit, ça ne peut exister qu'à l'échelle individuelle, de la conscience des soignants, de leur auto-élévation, comment ils vont grandir et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter aux patients. Et ce que je trouve important à questionner par rapport à la parole non accueillie ou qu'est-ce qu'on en fait, c'est est-ce que nous avons un pouvoir de réparation du passé et quelle est la responsabilité de l'institution de faire ou pas faire La violence, elle existe. Les vies sont construites en conséquence. Les faits ont marqué les personnes et les familles. Mais est-ce que qui suis-je pour révéler quelque chose à la famille qui le sait déjà et qui chemine psychologiquement? En fait, quelle est ma posture, quelle est ma légitimité de dire, voilà, votre maman est en train de délirer sur son passé traumatique? À mon avis, personnellement, je pense que tout ce qu'on peut faire tant que soignant, c'est de offrir le temps d'écoute et justement se centrer sur la personne en souffrance et ne pas se préoccuper, parce que c'est vraiment pas de notre domaine d'aller chercher les répercussions de ce qu'elle a subi dans sa vie traumatisée sur le reste de la famille. L'institution ne pourra jamais faire ça. Et voilà, tant qu'on sensibilise les soignants, tant qu'on trouve, et dans le public, c'est juste pas possible, dans le privé non plus, c'est ça. Du coup,
après,
c'est...
je pense que, excuse-moi, je te coupe, mais c'est je pense que c'est compliqué à généraliser. Je pense que mine de rien, poser des questions peut faire bouger des choses, et on le voit avec la violence conjugale. Enfin, il y a quand même des services, des spécialisés, on ne se trouve que des formations qui circulent. Donc il faut, enfin, je pense que c'est chouette aussi d'être un peu utopiste, hein. Enfin, c'est aussi comme ça qu'on fait bouger des trucs, des choses, hein. Enfin, en posant des questions et tout ça. Après, là où je rejoins beaucoup ce que tu dis, c'est quand tu dis, alors est-ce que c'est finalement aux soignants de soigner le passé d'une personne, une famille, etc. Je pense que ça, c'est la question qui sous-tend l'enquête aussi. C'est de questionner, alors sans réponse, c'est aussi de se dire, est-ce que quelle est la responsabilité politique d'une histoire individuelle et une histoire intime, qui est une question énorme en fait, énorme. Mais en même temps, le trop. Non mais et tu vois, et j'aimais bien. Enfin moi, c'était un peu l'idée qui sous-tendait ça aussi, sans encore une fois, tout en sachant tous les trucs compliqués, enfin toutes les empêchements institutionnels et puis même les questions éthiques et ce que tu es en train de dire, ça, c'est à partir de quand on estime qu'une situation elle est politique ou pas, par exemple. Enfin. À partir de quand on estime que la responsabilité elle est collective ou pas. Et après, je suis assez d'accord sur l'idée qu'une famille chemine et traite les choses dans son propre sein. Après, il y a aussi des gens qui meurent. Enfin, voilà. Enfin, après, on peut aussi opposer ces situations à des situations dramatiques qui se produisent, etc. Donc, est-ce qu'on peut les anticiper ? Est-ce qu'en tout cas, on peut ouvrir le questionnement sur quoi faire ? Enfin,
tout à fait. Et c'est, en fait, quand c'est opéré, par rapport au secret médical, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes soumis à l'obligation de signalement. C'est-à-dire que si on sait que la personne elle risque de subir les violences ou elle les a subies et on constate les dégâts, il y a le signalement.
Mais a priori, c'est
mais pas... quand il s'agit des cas psychiatriques, évidemment, et on connaît tous l'état de ce domaine médical en France, et le budget, et le temps des soignants, tout ça. Mais du coup, de quoi va se préoccuper le soignant? C'est de la personne en face, de son bien-être, de lui pouvoir trouver le temps de parole, et justement, de l'accueillir. Et aller au-delà quand t'es une petite, je sais pas, vis dans l'immense machine hospitalière. Et c'est vraiment, vraiment, c'est que des héros qui peuvent le faire et j'espère qu'il y en aura.
Merci beaucoup. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête, on est en train de nous dire. Merci beaucoup pour votre attention. J'aimerais beaucoup pouvoir continuer à discuter.
Il est dans quel numéro?
C'est dans le premier numéro et en fait c'est une enquête que je vais continuer. Du coup, toi je suis hyper intéressée par parce que c'est que des pistes à choper, à les tricoter. Les tricoter. On verra quoi. Je pense qu'il y aura un deuxième opus. Merci beaucoup. Thank you.